du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Gilles Weinstein, titulaire au Collège de France de la chaire d'histoire turque et ottomane, a consacré son cours de l'année 2007 à l'histoire des relations diplomatiques entre l'Empire ottoman et l'Europe du 15e au 18e siècle. L'Empire ottoman, qui envoyait auparavant dans les cours européennes des ambassadeurs sans statut véritable et dont certains étaient d'ailleurs des aventuriers raffinés, par exemple des princes catholiques convertis à l'islam, va choisir à partir du milieu du XVIIe siècle ses ambassadeurs parmi les dignitaires de haut rang. Apparat fastueux, cadeaux somptueux aux rois visités, etc. Dans le cours que nous avons écouté hier matin, Gilles Weinstein nous a raconté l'ambassade de Karam Mehmed à Vienne en 1664 et nous a lu les récits qu'en avait fait l'écrivain turc Evliya Çelebi, qui faisait partie de la suite de l'ambassadeur turc. Mais si les ambassades ottomanes étalaient leur magnificence à la fin du XVIIe siècle, qu'attendre alors de celle du XVIIIe siècle? C'est de cela qu'il va être question ce matin. Les surprises sont nombreuses. Écoutez.
Ahmed III, dans les premières décennies du XVIIIe siècle, restera connu dans l'historiographie ottomane comme l'ère des tulipes, l'allée d'Evry. Le goût de la haute société stambouliote, non seulement pour cette fleur, dont les oignons atteignaient des prix astronomiques, mais plus généralement pour les jouissances esthétiques et les plaisirs raffinés, est bien résumé par cette formule d'air des tulipes. Dans le même temps, l'Empire subit de graves revers militaires face aux Habsbourg, qui se soldent en particulier par le traité de Passarowitz de 1718, très défavorable aux Ottomans, auxquels il impose un important recul territorial en Europe centrale. C'est dans ce contexte contrasté que le grand vizir de l'époque, Nefşehirli Ibrahim Pacha, à la fois grand ordonnateur des fêtes de son maître et préposé au redressement nécessaire de l'Empire, met sur pied deux grandes ambassades en Europe. La première, confiée en 1719 à Ibrahim Pacha, que j'ai évoqué la dernière fois, est destiné une fois de plus à Vienne, l'ambassadeur étant chargé de porter à l'empereur le texte ratifié du traité de Passarowitz. Les Ottomans donnent d'autant plus de faste à cette ambassade, un faste sans précédent, que l'objet en est amer pour eux. La seconde ambassade est destinée à la France. Et l'annonce en est d'autant plus surprenante que les Turcs n'ont pas envoyé d'ambassadeur dans ce lointain pays depuis 50 ans et qu'ils n'ont alors aucun intérêt politique d'importance avec lui. En conséquence, conjecture et rumeurs vont bon train. Le motif officiel de l'ambassade est de porter au jeune Louis XV, qui est encore un enfant, sous la tutelle du régent Philippe d'Orléans, d'apporter donc à Louis XV l'autorisation accordée par Ahmed III de procéder aux réparations de la voûte du Saint-Sépulcre à Jérusalem qui menace ruine. Mais ce motif n'est qu'un prétexte qui ne trompe personne. La vraie raison est ailleurs. La véritable, ou du moins la principale raison de cette ambassade était une mission d'information, de renseignement, mais pas dans le sens habituel, traditionnel du terme, dans un sens beaucoup plus large. L'extrême curiosité du grand vizir Ibrahim Pacha pour tout ce qui se passait en Occident à cette époque est attestée par bien des témoignages. Ce goût était en liaison avec l'attrait pour le faste, avec cet épicurisme de la période des tulipes, quelque peu frivole, mais par lequel le grand vizir s'assurait la bienveillance continue du sultan. Bonnac, qui est l'ambassadeur de France à Constantinople à cette époque, rapporte que le grand vizir, ayant appris qu'on trouvait à Vienne, je cite, « des peaux de renard noir et quelques montres d'Angleterre d'une beauté singulière », ordonne aussitôt à son ambassadeur à Vienne, Ibrahim Pacha, de lui en procurer quelques-unes. Mais au-delà de ce qui peut apparaître comme assez frivole, le grand vizir a des préoccupations plus sérieuses. Il a des préoccupations gouvernementales. Bonnac l'avait noté, il cherche à s'instruire à fond des affaires des princes chrétiens. Et mécontent de l'action d'Ibrahim Pacha à Vienne, il veut envoyer en France quelqu'un de plus entendu. Une autre fois, dans une de ces conversations familières dont ils ont l'habitude, le grand vizir interroge Bonnac sur le système de l'eau, l'instauration du papier-monnaie à la place de la monnaie métallique, le système de l'eau faisant alors fureur en France. Le grand vizir en a entendu parler. Il me dit, écrit Bonnac dans une de ses dépêches au roi, qu'il apprenait de tous côtés que par une révolution à laquelle il ne pouvait absolument rien comprendre, les dettes immenses dont l'État se trouvait chargé à la mort du feu roi étaient entièrement acquittées. Le trésor de votre majesté rempli et les grands et le peuple dans l'abondance. Qu'il ne pouvait pas s'imaginer comme tout cela s'était fait subitement et que je lui ferais plaisir de le lui expliquer. Bonnac est bien obligé de lui avouer qu'il n'a pas compris non plus et il proteste de son ignorance. Mais des échanges de ce genre conduisent Bonnac à soupçonner que, je cite, « le véritable sujet de l'ambassade serait de prendre connaissance de tout ce qui se passait de merveilleux dans le royaume et d'en profiter, s'il pouvait, pour la direction des affaires de cet empire. » Bonnac avait sans doute raison, il voyait juste en disant cela, mais c'est dans une optique encore plus large que ces préoccupations gouvernementales que le grand vizir était curieux de savoir ce qui se passait en France. C'est dans le sens le plus large, dans le sens le plus civilisationnel que l'ambassadeur devait aller chercher des exemples chez les Francs et singulièrement en France. Et on a la preuve que tel était bien l'objet ultime de sa mission dans les instructions qui ont été données à l'ambassadeur avant son départ en France, instructions que Bonnac ne connaissait pas, ne pouvait pas connaître, mais dont le texte nous est partiellement, en tout cas, parvenu. Il était prescrit à l'ambassadeur, je cite, de faire une étude approfondie des moyens de civilisation et d'éducation et de faire un rapport, takrir, sur ceux capables d'être appliqués. Vesaiti umran ve mari fine dahi la yokeile kesbi etela ederek kabili tadbik olan larenen takriri. Donc, un objectif tout à fait différent de celui de l'ambassade d'Ibrahim Pacha à Vienne, même si, comme tout ambassadeur ottoman à l'étranger, ce dernier avait lui aussi un rôle d'information. Et d'ailleurs, si l'on en croit Bonnac, le grand vizir se plaignait de ce que Ibrahim Pacha remplissait mal ce rôle à Vienne. Ce n'est pas une ambassade de prestige qu'il va s'agir d'envoyer en France. Il aurait été, d'un point de vue pratique, du point de vue de la logistique, difficilement envisageable de faire accompagner, par exemple, Mehmet Efendi jusqu'en France avec une suite de plus de 700 personnes, comme avait été celle d'Ibrahim Pacha à Vienne. Donc ce n'est pas une ambassade de prestige et elle n'aura pas un caractère fastueux. Et c'est ce qui explique peut-être le premier choix étonnant qui est fait pour assurer cette ambassade, un choix qui est fait dans la tradition ancienne, telle que je l'ai décrite dans les leçons précédentes, c'est-à-dire que pour cette mission en France, on va chercher un simple kapodjebache, donc un membre d'un des corps du palais, comme on avait l'habitude de faire, un personnage dont le nom était Inje Kara. Kara, le noir, n'est-ce pas, et Inje, le mince. C'était un mauvais choix. Et il y a d'ailleurs malentendu sur les raisons qui vont faire penser que c'est un mauvais choix et qu'il faudra trouver quelqu'un d'autre. Pour Bonnac, c'est un mauvais choix dans la mesure où il est parfaitement conscient de l'évolution de la diplomatie ottomane et qu'il sait que désormais, quand on veut honorer un pays, on lui envoie en ambassade un haut dignitaire, un membre de la haute administration, et que par conséquent, de ce point de vue-là, du point de vue du prestige, Inje Kara ne fait pas l'affaire. Bonnac note un simple kapodjebache appelé Inje Kara, homme de nulle réputation. Mais en réalité, si le choix va être remis en cause par le grand vizir lui-même, c'est que il se rend compte que ce malheureux kapodjebache n'a pas l'envergure intellectuelle nécessitée par ce qui est le sujet véritable de l'ambassade. Il faut en effet un homme capable de comprendre et ensuite d'expliquer à son retour ce qu'il a vu d'extraordinaire en France. Et Bonnac peut écrire, après ses tergiversations, avec satisfaction, « On a jeté les yeux sur Chelebi Mehmet Aga, dit-il, homme considérable par ses biens et par son mérite. » Il désigne par là celui dont le nom complet était Yirmi Sekiz Chelebi Mehmet Saïd Efendi, qui sera l'homme envoyé en France. Il a une cinquantaine d'années au moment de l'ambassade et il a derrière lui une brillante carrière dans l'administration du corps des janissaires. Il appartenait à la 28e compagnie de ce corps, d'où ce sobriquet un peu surprenant de Yirmi Sekiz, c'est-à-dire 28. Son sobriquet, c'est 28. Il a été inspecteur de l'arsenal, Topanay Nazareux, et dans les négociations du traité de Passarowitz, il a été le second plénipotentiaire avec le titre de Chekesalis Defterdare, c'est-à-dire trésorier de la troisième division, ce qui était un titre honorifique, mais moins honorifique que celui d'Ibrahim Pacha, l'ambassadeur à Vienne, qui lui avait été nommé Chekesani Defterdare, c'est-à-dire trésorier de la deuxième division. Et Bonnac commente, il s'y était acquis, au cours des négociations du traité de Passarowitz, beaucoup de réputation parmi les ministres des princes chrétiens qui y avaient assisté. En outre, à l'occasion de sa nomination à l'ambassade en France, il est élevé à la dignité de Bash Muhasebeji, c'est-à-dire de grand comptable, et vous voyez que tout est dans les formes requises, c'est-à-dire que le personnage qu'on envoie en France est un personnage d'un rang appréciable et qu'on élève encore ce rang pour l'envoyer accomplir sa mission. Donc Bonnac est tout à fait satisfait. Mais l'historien Rachid nous explique, lui, la raison pour laquelle on a préféré ce Yirmisekiz Mehmet Efendi à Injekara, dont le choix initial avait été une bévue. On a préféré Mehmet Efendi parce qu'il était, je cite, une personne expérimentée et rompue aux subtilités, ce qui lui avait permis d'acquérir l'intelligibilité de l'agencement des conversations et des ruses des chrétiens. Tertibi muhaverat ve desai si nasaraya etela asoletmish bir kardane dakikashinas. Bon, une langue un peu compliquée. Voilà une définition du bon ambassadeur ottoman chez les infidèles qui doit savoir négocier et ne pas se laisser surprendre par les ruses des chrétiens. Dans le cadre d'une telle mission, on comprend que cet exercice encore récent, celui de la rédaction d'une relation d'ambassade, d'un Sefaret Nameh à l'issue de la mission, devient un élément essentiel de la mission. Le plus important, c'est ce que Mehmet Efendi va rapporter de la France dans son Sefaret Nameh. Et donc, cette institution nouvelle, la relation d'ambassade, prend avec Mehmet Efendi une importance toute particulière. Il ne s'agira pas seulement de confirmer, comme ça avait été le cas par exemple pour le Sefaret Nameh de Kara Mehmed de 1665, de confirmer que les honneurs avaient été bien rendus à l'ambassadeur, que le sultan ottoman avait été traité avec toute la dignité souhaitable. Il s'agit de décrire et d'expliquer ce qu'on a vu de remarquable dans le pays d'accueil et qui pourrait être éventuellement profitable à l'Empire ottoman. Et de fait, Mehmet Çelebi va s'acquitter sur ce plan remarquablement de sa mission, puisque le Sefaret Nameh de Mehmet Efendi va être d'emblée un modèle du genre, va être imité par tous les ambassadeurs ou une grande partie des ambassadeurs postérieurs et va même être un modèle si contraignant on peut imaginer qu'il a retardé l'évolution de ce genre et la manière dont les ambassadeurs présentaient les pays étrangers. Les historiens se sont évidemment beaucoup intéressés à ce texte, Sefaret Nameh de Mehmet Efendi, s'y sont intéressés comme un document sur la rencontre entre l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas, sur une rencontre entre deux civilisations, deux cultures. C'est surtout de ce point de vue qu'il a été étudié, et notamment dans un ouvrage d'une sociologue. Elle fait de la sociologie historique, c'est-à-dire beaucoup de sociologie et assez peu d'histoire, il faut bien le dire. Je veux parler de Fatma Göçek, qui a publié en 1987 East Encounters West, France and the Ottoman Empire in the 18th century, la base de cette étude étant le Sefaret Nameh de Mehmet Efendi. Ce Sefaret Nameh, bon, je dirais bien sûr quelques mots de ce que Mehmet Efendi rapporte de si merveilleux, n'est-ce pas, de son expérience française, mais je ne veux pas oublier qu'il faut considérer cette ambassade et ce texte, le Sefaret Nameh de Mehmet Efendi, dans le contexte de l'histoire des ambassades ottomanes en Europe, dont il est une étape importante. Et cette ambassade, il est d'autant plus loisible de l'étudier que, en dehors du Sefaret Nameh lui-même, qui est déjà substantiel, toutes sortes de témoignages ont été conservés, un peu dans les archives ottomanes, mais beaucoup dans les archives françaises, et par conséquent, il y a un dossier particulièrement riche permettant d'étudier la manière dont Mehmet Efendi s'est tiré de la mission qui lui avait été confiée. Vous vous souvenez que son prédécesseur en France, 50 ans plus tôt, en 1669, Suleyman Aha Muteferika, n'avait pas été à la hauteur de sa mission. Il s'était montré rigide, obtus, dans l'exécution des consignes qui lui avaient été données. Il s'était montré d'une indifférence choquante à tous les honneurs qu'on lui rendait, à tout le faste qu'on avait déployé pour lui. Et puis ensuite, il s'était montré effrayé et penaud par la disgrâce que son comportement lui avait attiré. Nous avons vu aussi plus récemment que Kara Mehmed, à Vienne, en 1665, s'était montré aussi arrogant et entêté, comme le révèle son Sefaret Nameh et comme le révèlent aussi les récits drôlatiques d'Evliya Çelebi. Mehmet Efendi, au contraire, va se révéler comme l'homme de la situation, un véritable ambassadeur selon les normes en vigueur telles qu'elles avaient été définies notamment dans le traité de La Rocca que je vous ai cité sur le parfait ambassadeur. La Rocca disait qu'il devait faire preuve de modération, de prudence, montrer de la distinction, de la beauté, de l'élégance, etc. Or, face au public français, un public incorrigiblement critique, je parle du public parisien en particulier, critique, volontiers ironique et persifleur, eh bien, néanmoins, Mehmet Efendi a fait l'unanimité. Et pour en être convaincu, ce n'est pas sa relation qui peut faire preuve, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'il dit lui-même de la façon dont il s'est comporté, mais les témoignages que l'on en a. Et notamment, le portrait que fait de lui Nicolas-Louis Ledran, qui était archiviste des affaires étrangères et qui a été chargé de rédiger un rapport circonstancié sur la façon dont s'était déroulée l'ambassade. L'ambassadeur turc, écrit-il, fit paraître pendant son séjour à Paris beaucoup d'esprit et de pénétration. Il ne faisait sentir ce qui pouvait lui déplaire que par des railleries fines et qui n'en étaient pas moins sensibles. Il prenait facilement son parti sur ce qu'il croyait ne pouvoir empêcher. Sa physionomie était des plus belles et son regard mêlé de douceur et de noblesse. Il charmait tout le monde par ses manières polies et civiles et l'on remarquait aisément qu'il aimait à plaire. Alors voilà quelques représentations de Mehmet Efendi. Je ne sais pas si vous y retrouverez les louanges le Dran lui attribue. Mais on a une confirmation de ces louanges chez un auteur, chez un mémorialiste, le mémorialiste par excellence, qui ne brille pas en général par son indulgence. Je veux parler du duc de Saint-Simon, qui dresse un portrait de Mehmet Efendi, et comme vous allez le voir, on y retrouve immédiatement la patte et le phrasé du mémorialiste. Il me parut au plus de moyenne taille, gros et d'environ 60 ans, un beau visage et majestueux, la démarche fière, le regard haut et perçant. Il entra où était la compagnie comme le maître du monde, de la politesse, mais plus encore de la grandeur, et se mit sans façon à la première place au milieu des dames, qu'il sut fort bien entretenir, sans le moindre embarras et l'air fort à l'aise. Donc, il exprime bien la conscience qu'il a de son haut rang, mais il le fait en même temps de telle manière que personne n'en est choqué, ni dans le fond, ni dans la forme. Nous avons bien d'autres témoignages de la politesse dont il fait preuve et de l'aisance qu'il manifeste en toute occasion. Si on consulte, par exemple, le journal d'un avocat de Paris qui a été témoin des apparitions publiques de Mehmet Efendi, je veux parler de Mathieu Marais, eh bien on lit « Il apparut d'un air libre, gracieux, et comme si le Louvre était sa maison. » Autrement dit, il s'est comporté comme l'aurait fait n'importe quel gentilhomme français de haut rang ou l'ambassadeur, n'importe quel ambassadeur d'un pays chrétien particulièrement civilisé. Ou, en d'autres termes, il ne s'est pas comporté comme un Turc, comme on pouvait attendre et redouter qu'il se comportât. Un autre témoin, Jean Buvat, écrit « Il reconduisit monsieur le maréchal d'Estrée jusqu'à son carrosse. » D'Estrée l'avait accompagné jusqu'à l'hôtel des ambassadeurs, rue de Tournon, où il résidait. « En quoi ?» Il observa la même civilité qui se pratique en France entre les seigneurs de distinction. On est particulièrement frappé, et beaucoup d'observateurs le notent, par son attitude vis-à-vis des dames, sa galanterie, une galanterie à laquelle les Français de cette époque attachent la plus haute importance et qu'on n'attendait pas de sa part. À Toulouse, par exemple, lors de son voyage vers Paris, nous avons une très savoureuse relation de son séjour en Languedoc. Eh bien, à Toulouse, nous apprenons qu'il dîne avec deux grandes dames, la princesse d'Auvergne et la présidente de Riquet. Après quoi, après le dîner, je cite, « Celles-ci déclarèrent qu'elles avaient trouvé dans l'ambassadeur, pendant son repas, à la Turque, toute la galanterie d'un ancien courtisan de France. À Sept, selon la même relation, il reçut tout le monde et surtout les dames avec politesse. Elles lui parurent fort aimables et il les fit prier d'ôter leurs gants, ce qui lui donna une occasion de dire qu'il n'avait point encore vu de si belles mains. » On n'est pas plus galant. À certains moments, on a l'impression qu'on a tout à fait oublié que cet ambassadeur était turc. Par exemple, dans le journal de l'époque, Le Nouveau Mercure, on écrit à propos d'une visite qu'il a faite au cabinet de curiosité de Pajot d'Ozembray, ce ministre, sensible aux amusements philosophiques, comme s'il s'agissait d'une chose tout à fait normale. Mais en général, comme vous l'avez déjà senti, finalement, on appuie particulièrement sur les qualités dont il est sous-entendu qu'on ne s'attendait pas à les trouver chez lui, qu'elles sont paradoxales chez un sujet du sultan. Et il y a ce même clin d'œil, ce même sous-entendu et cette même sorte de condescendance dans un propos que le maréchal de Villeroy livre dans un billet à Dubois, le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Il écrit à Dubois: « Que dites-vous de la sympathie qu'il y a entre le Turc et moi ?» D'autres formulations ne laissent d'ailleurs pas ce paradoxe implicite et mettent véritablement les points sur les i. Par exemple, on lira toujours dans Le Nouveau Mercure où, comme vous allez en juger, les formules journalistiques étaient déjà très en vigueur. Ce ministre oriental fait briller dans toutes ses démarches et tous ses discours un goût européen. Et, poursuit le texte, et elle a rendu la nation française justice à son mérite et lui a prouvé qu'elle ne juge pas toujours par le climat, c'est-à-dire l'origine géographique des gens, ni par les habits. Vous remarquerez qu'il n'a pas été fait mention de la religion de Mehmet Efendi. Mais c'est un ambassadeur parfait que tout naturellement, il s'intègre au corps diplomatique parisien. Et on en a une illustration dans un écho rapporté par le Nouveau Mercure, toujours. L'ambassadeur turc a rendu visite par amitié à monsieur le chevalier Sutton, ambassadeur d'Angleterre en cette cour. C'est un ambassadeur parmi les ambassadeurs. Et pourtant, c'est un ambassadeur qui se distingue des autres par la religion et par les mœurs. En effet, l'ambassadeur et toute sa suite constituent à Paris, rue de Tournon, un groupe de Turcs musulmans vivant pour quelques mois en territoire infidèle et qui, en tant que tel, a des habitudes de vie et des obligations rituelles, de même que des interdits qui sont particuliers et qui suscite une prodigieuse curiosité. Ils sont d'autant plus scrupuleux dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux en particulier que ne pas se comporter ainsi serait faire une concession honteuse aux infidèles, et ceci ne manquerait pas d'être rapportés et exploités contre eux à leur retour à Istanbul. Mais en même temps, en tant qu'ambassadeur, Mehmet Efendi est tout à fait conscient du fait qu'il ne faut pas blesser la population environnante, une population faite d'infidèles, certes, mais des infidèles qui sont aussi des autres et qui, comme tels, doit être respecté. Donc, un exercice délicat, un équilibre difficile à trouver, et dans cette épreuve également, Mehmet Efendi va donner toute satisfaction et recevoir beaucoup de félicitations. En effet, il accomplit scrupuleusement tous ses devoirs religieux. Mais, comme le note Ledran dans le rapport que j'ai déjà cité, il fait tout cela avec beaucoup de modestie. Voici une description de ses devoirs religieux. Ce ministre et ses gens faisaient leurs prières 5 fois par jour, très régulièrement et avec beaucoup de modestie. L'homme destiné pour appeler à la prière se mettait à l'endroit le plus élevé de la maison, donc l'hôtel des ambassadeurs. À cet appel, tous les gens de la suite de l'ambassadeur, grands et petits, se rendaient dans sa chambre. Chacun s'y plaçait selon son rang et par colonne. Donc la chambre de l'ambassadeur se transforme en mosquée, en oratoire pour l'occasion. Et le vendredi, les prières sont plus longues et sont accompagnées de lectures et de chants à haute voix. Puis arrive le mois de Ramadan et toute l'ambassade va, comme il se doit, pratiquer le jeûne du Ramadan. Cela suscite une information et une mise au point du nouveau mercure. Les lecteurs ne savent peut-être pas ce que c'est que le Ramadan, du moins beaucoup d'entre eux, et vous allez voir qu'on leur explique la chose de façon très pédagogique. Et puis il y a un blanc dans le texte, c'est donc moi qui vais le combler, le 26, il s'agissait d'un 26, l'ambassadeur et sa suite commencèrent leur Ramadan. C'est le carême des Mahométans. C'est dans ce mois de Ramadan que le législateur turc, dit le nouveau mercure, n'est-ce pas ? On présente cela comme une loi des Turcs, a commandé l'observance d'un jeûne très austère qui consiste à s'abstenir de boire et manger chaque jour depuis le lever du soleil jusqu'à ce que les étoiles paraissent. Et la tâche de Mehmet Efendi, l'accomplissement de ses devoirs religieux, sont de toute évidence facilités par le fait qu'il ne suscite absolument aucune hostilité, mais simplement, comme je l'ai déjà dit, une immense curiosité. Des foules se précipitent, rue de Tournon, toute classe sociale confondue, pour voir l'ambassadeur et sa suite, faire leur prière et également pour les voir ou essayer de les voir manger, comme j'y reviendrai dans un instant. On aura noté le ton très, très neutre, très pédagogique, comme je le disais, qu'adopte le mercure pour expliquer à ses lecteurs ce que c'est que le jeûne du Ramadan. On voit que, disons, tout un passé pluriséculaire, je dirais, de polémiques religieuses est totalement mis entre parenthèses dans la circonstance. Et Mehmet Efendi lui-même rapporte dans sa relation comment, à la fin de ce mois de jeûne, il a pu déterminer quel était le bon moment pour clore le jeûne du Ramadan. Je voulus savoir si la nouvelle lune paraîtrait. J'envoyais pour cet effet, sur le soir, 5 ou 6 de mes gens à l'observatoire, où il y a une tour fort élevée. Ils regardèrent de cette tour, et 3 d'entre eux l'ayant vue, vinrent m'emporter témoignage, ayant vu la nouvelle lune. Nous jeûnâmes encore tout le vendredi, et le lendemain, nous fîmes le Bayram, c'est-à-dire la fête et les réjouissances qui marquent la fin du Ramadan. Et lorsque Mehmet Efendi et sa suite se déplacent pour faire des excursions, des visites, on prépare tout afin que lui-même et les siens puissent accomplir leurs prières. Par exemple, Jean Buvat rapporte que lors de la visite à Versailles, en descendant de carrosse, lui, c'est-à-dire l'ambassadeur et son fils, entrèrent dans la salle de bain où ils firent la prière avec leur ministre ou grand vicaire de la loi mahométane. De même, Saint-Simon encore rapporte que lors de la visite de Mehmet Efendi chez Monsieur de Lauzun, qui, dit Saint-Simon, aimait les choses singulières et tous les étrangers, eh bien, Saint-Simon précise, on lui avait préparé un cabinet avec un tapis pour l'heure de la prière. Nous la lui vîmes faire très dévotement avec leur prostration et toute leur façon. Donc, une tolérance parfaite sur, fondée sur les lois de l'hospitalité et de la diplomatie et encouragée par la curiosité et le goût de l'exotisme. Et Mehmet Efendi répond de son côté à cette tolérance de bienséance par une attitude analogue. En effet, voici venu le jour, dans le quartier de la rue de Tournon, de la procession de la petite fête Dieu de Saint-Sulpice. Et toutes les fenêtres de la rue de Tournon sont pavoisées. Que va faire l'ambassadeur ottoman en la circonstance? Eh bien, Saint-Simon, encore lui, nous donne la réponse. Il ne fit aucune difficulté de tendre tout le devant de sa maison et d'orner ses fenêtres de tapis d'où il vit passer la procession. Mais, à en croire Saint-Simon, il n'était pas sûr du comportement de toute sa suite et, je cite, « il tint tout son monde enfermé chez lui et sa grande porte à la clé ». Je précise que Mehmet Efendi ne dit pas un mot de tout cela dans son Sefaret Nameh. De même, il n'est jamais question de visite d'église, ni de rencontre avec des dignitaires ecclésiastiques, mis à part le cas bien particulier de Dubois, l'évêque de Cambrai, auquel il rend visite, mais en tant que ministre des Affaires étrangères. Malgré tout, nous savons, grâce aux journalistes du Nouveau Mercure, qu'il a visité l'abbaye de Saint-Denis et même qu'il a été en Sorbonne et a été reçu par des docteurs et des bacheliers en fourrure et en robe de cérémonie. À Lyon, où il passera une semaine après son départ de Paris et où il est magnifiquement reçu, il est accueilli en particulier et fêté par l'archevêque de Lyon. Mais il faut dire que ce dernier n'est autre que le fils du maréchal de Villeroy, avec lequel l'ambassadeur s'était parfaitement entendu. À Lyon, il visite également la bibliothèque des Jésuites, dont il parut content, nous dit le Mercure. Et de même, à Paris, il avait visité la bibliothèque du roi en compagnie de son fils. Et le Nouveau Mercure nous apprend qu'il y demeura fort longtemps et y admira le grand nombre de manuscrits arabes qui y sont. Et Jean Buvat précise, il demeura plus de 2 heures où il parut étonné d'y voir quantité de manuscrits turcs et arabes et d'Alcoran écrit en ces langues. Mais de cela, il ne fait pas mention dans son Sefaret Nameh, alors qu'un de ses lointains successeurs, Vassef Efendi, qui sera ambassadeur en Espagne en 1782 et qui, lui aussi, laissera un Sefaret Nameh, nous parle de la quantité de manuscrits arabes qu'il a vus dans la bibliothèque de l'Escorial et ajoute qu'il est regrettable de les voir entre les mains des infidèles. Un sujet qui touche bien entendu aux rites et aux mœurs est celui des manières de table. Eh bien, l'ambassadeur et sa troupe vivent à la turque dans ce domaine comme dans les autres. Je donne la parole de nouveau à Ledran qui nous dit « Leur manière d'apprêter à manger était particulière. Ils égorgeaient eux-mêmes les animaux qu'ils voulaient manger. Ils faisaient beaucoup de ragoûts et encore plus de pâtisseries feuilletées et faites avec moitié farine et moitié amidon. Ils n'usaient point de rôti, excepté quelques brochettes faites avec du mouton. Ils consommaient beaucoup de riz et ils en mettaient dans presque tous leurs mets, aussi bien que du miel, du beurre, des épiceries et du safran. Ils se servaient beaucoup de salades, de toutes sortes d'herbes. Donc, vous voyez, la cuisine turque telle qu'elle est encore à l'heure actuelle. Et Ledran rapporte également comment, après le repas, on apportait un grand bassin à l'ambassadeur avec un pot plein d'eau tiède et un morceau de savon avec quoi il se lavait les mains et le visage. Donc, une autonomie alimentaire complète de l'ambassade, et vous voyez qui allait depuis l'égorgement des animaux jusqu'à la pipe que fumait l'ambassadeur après son repas, ce que Ledran nous rapporte dans un autre passage. Et de même, lorsque l'ambassadeur et sa suite séjournent à Versailles pendant 3 jours, tous ces gens suivaient à cheval avec plusieurs chariots remplis de coffres et d'ustensiles de cuisine. Toutefois, en tant qu'ambassadeur, Mehmet Efendi devait être invité à des dîners et des soupers de cérémonie, et il fallait donc bien qu'il joue son rôle dans ces occasions. Et il se plaint d'ailleurs, dans sa relation d'ambassade, de ne pas avoir été souvent invité à dîner. Et Bonnac lui a fait couper ce passage de sa relation en disant que c'était trop injuste, qu'il avait été invité aux Tuileries à un repas magnifique par le maréchal de Villeroy, qu'il avait été invité à Chantilly où on lui avait servi des repas également magnifiques. Donc c'était injuste de sa part que de prétendre qu'il n'avait jamais été ou très peu été reçu à la table des grands seigneurs et des autorités qui le recevaient. Et de fait, il se contredit puisque il mentionne dans cette même relation quelques repas magnifiques qu'il a fait. Mais précisément, il ne fait que les mentionner et sans entrer dans les détails et sans dire ce qu'il a mangé et ce qu'il a bu. Et là encore, il faut se reporter aux indiscrétions Nouveau Mercure pour savoir ce qu'il en est. Aux Tuileries, par exemple, le repas fut servi magnifiquement à plusieurs services. L'ambassadeur y mangea de tout, dit le Nouveau Mercure, fort proprement à la manière française. Il ne but que du cidre et son fils de la bière, à la santé de toute la compagnie en particulier. Après le repas, ses officiers lui lavèrent les mains et les savonnèrent à l'usage des Turcs qui en font un point de religion. Puis, de nouveau, il fume sa pipe. Donc, un compromis entre ses habitudes alimentaires, ses obligations et ses interdits religieux, et d'autre part, le devoir de s'adapter à ses hôtes. Et il fait de même, apparemment, un compromis sur le vin, sur l'absorption de vin. Jamais de vin en public, mais cela ne signifie pas qu'il ne boit jamais de vin dans l'absolu. Ledran rapporte, il défendait avec soin qu'on donnât du vin aux Turcs qui formaient sa maison, mais il n'était pas si rigoureux à cet égard pour ce qui concernait sa personne. Il en buvait quelquefois, mais toujours en secret et modérément. Et on en a une confirmation chez Saint-Simon à propos du récit de la visite chez Monsieur de Lauzin. Il fut très exact à ne boire ni vin ni liqueur, mais retiré dans sa chambre, on dit qu'il ne se faisait faute de bien avaler du vin en secret. D'autre part encore, cet ambassadeur est un ambassadeur sans ambassadrice. Et bien entendu, il y a dans sa relation un silence absolu sur ça ou sur ses femmes. Seul son fils est cité, puisqu'il est un membre à part entière de sa suite. Il est officiellement le secrétaire de l'ambassade. Il s'agit de Saïd Effendi, qui sera lui-même, d'ailleurs, là, on le voit à un âge plus avancé, on le voit, à vrai dire, lors de l'ambassade qu'il fera en France, de nouveau, en 1742, où il sera reçu par Louis XV, mais un Louis XV adulte, devenu adulte entre-temps. Eh bien, ce Saïd Effendi est déjà présent dans la suite de l'ambassade de son père en 1720 et c'est le seul membre de sa famille dont il est question. Et bien entendu, toutes ces dames avec lesquelles il se montre si galant brûlent de l'interroger à ce sujet, sur ça ou sur ses épouses, mais n'ose pas le faire. Et il y en a une finalement qui se lance, c'est la marquise de Biron, qui est enhardie peut-être par le fait qu'elle était la mère de l'épouse du marquis de Bonnac, c'est-à-dire de l'ambassadeur à Constantinople. Et Jean Buva raconte cette scène où Madame de Biron donc interroge Mehmet Efendi sur ses femmes. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que Evliya Çelebi pour glisser ou déraper du réel au fantasmatique le plus débridé. Le 23 mars, après dîner, Madame la marquise de Biron, accompagnée de plusieurs demoiselles ses filles, étant allée rendre visite à cet ambassadeur, lui dit, entre autres choses, qu'elle s'étonnait de ce qu'il n'avait point amené quelques-unes de ses femmes. Et, bien entendu, il va répondre par une pirouette. Sur quoi il dit, deux raisons m'en ont empêché. Premièrement, la longueur du voyage et la mer auraient pu les fatiguer beaucoup. Secondement, j'étais persuadé que je trouverais en France des dames infiniment plus belles et plus spirituelles que toutes celles que j'aurais pu amener de Constantinople. Que de 60 enfants que j'ai eus de 200 femmes, il me reste seulement un fils qui m'a suivi et une fille que j'ai laissée à Constantinople. Et il termine par ce compliment. J'ai vu bien des fois, Madame la marquise de Bonnac, votre fille, qui charme tous ceux qui la voient quand il se trouve chez Monsieur l'ambassadeur de France, son mari. Voilà comment Mehmet Efendi se tire de cette situation un peu délicate. Et on admire aussi la façon dont il sait se prêter de bonne grâce à des distractions auxquelles on le convie et qui ne sont pas nécessairement de son goût. En particulier, il semble bien qu'il avait peu de goût pour la chasse. Or, on l'invite constamment à assister à des chasses, n'est-ce pas ? Et ce qui est évidemment, dans l'esprit de ses hôtes, une manière de l'honorer. On l'invite donc à des chasses, il s'y rend par devoir et il se lamente de voir qu'un premier cerf a disparu sans qu'on ait réussi à l'atteindre, puis un second cerf, et à ce moment-là, on lui propose se mettre en quête d'un troisième cerf, et n'en pouvant plus, il répond « Non, merci, j'ai pris assez de plaisir », n'est-ce pas ? Il y a donc des passages de ce genre qui expriment bien ces railleries fines dont parlait Le Dran. En fait, un ambassadeur parfait, comme j'ai pu le faire ressortir, et pourtant, cette ambassade ne va pas être un succès. Il y aura en effet un certain nombre de points noirs et qui tiennent à des questions de protocole. Et on voit bien comment, dans cette mission dont le but, comme je l'ai dit, est l'information culturelle au sens le plus large, eh bien on est quand même dans de la diplomatie et que par conséquent, les questions de protocole gardent toute leur importance.
Savoir aujourd'hui le Collège de France avec Gilles Weinstein. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé.
Culture, partenaire du film Paysages manufacturés de Jennifer Béchoual. Génie du meilleur documentaire 2007, meilleur long métrage canadien, Festival de Toronto 2006. Lors d'un voyage en Chine, le photographe canadien Edward Burtinsky documente les effets néfastes de la pollution et de l'industrialisation sur les paysages naturels. Une œuvre d'art et une réflexion sur la mutation des paysages et la condition humaine. Paysages manufacturés de Jennifer Béchoual. Au cinéma le 28 novembre avec France Culture. France Culture vous offre des places. Réservation au 32-30. Tapez étoile et 3, 34 centimes d'euros la minute. Is it in your eyes?
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire par Emmanuel Laurentin. Cette semaine, histoire de Strasbourg et ce matin, archives, ici Radio Strasbourg. En 1930, l'État français, soucieux de contrer les ondes allemandes, décide de créer une grande station à Strasbourg qui va diffuser sur la région une programmation variée, teintée du régionalisme alsacien en langue française, allemande et alsacienne. Plongée dans cette épopée avec quelques témoins de l'époque. Tizard les humanités, métropolitain par François Chalin, cette semaine l'équerre et le compas numéro 63, tribune de la critique architecturale enregistrée à Beaubourg vendredi passé. Il a été question de l'ouverture de la cité de l'architecture et du patrimoine et de quelques expositions, notamment la villa de Mademoiselle B et Vauban, bâtisseur du Roi Soleil, expositions à Adide au Design Museum de Londres, question aussi de l'immeuble Citroën des Champs-Élysées de Manuel Gautran et de trois nouveaux musées, Saint-Louis-les-Beach, Zurich et Cologne. 11h, question d'époque, mercredi, regard sur le droit avec le bien commun d'Antoine Garapon, sur les mutations du champ pénal, troisième partie, le retour de la vengeance, avec Denis Salas, magistrat, et Gérard Courtois, anthropologue. Et tout de suite, les matins de France Culture avec Ali Bedou.
Bonjour à tous et bon réveil. 6h59 ce mercredi 28 novembre 2007. Au sommaire de la matinale aujourd'hui, à 8h20, on reviendra sur les violences urbaines des derniers jours dans le département du Val d'Oise. Le calme semble être revenu après deux nuits d'émeutes. Marie-Pierre Verrouille reviendra dans son journal dans quelques secondes à 7h15 dans les enjeux internationaux, l'Atlas 2007 du dessous des cartes. Et puis à 7h25, Culture du Monde, carte blanche à Catherine Clément pour leur place à l'information. Il est 7h. 7h, le journal de Marie-Pierre Vérot. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali et bonjour à tous. La radicalisation, l'extrême violence des bandes face aux policiers à Villiers-le-Bel, la presse unanime ce matin pour les dénoncer. La nuit dernière a été plus calme dans une ville quadrillée par les forces de l'ordre. Nous viendrons dans un instant sur l'inquiétude des élus face aux armes qui circulent en banlieue, sur la tournée à Villiers-le-Bel de Michel Alliot-Marie et François Fillon hier soir, et puis sur la justice qui a la main très lourde lors des premières comparutions. Dès ce matin, Nicolas Sarkozy recevra lui à l'Élysée les familles des deux jeunes adolescents tués dimanche dans la collision entre leur moto et un véhicule de police. Le chef de l'État rendra également visite aux policiers blessés. Il devrait ou aurait dû s'exprimer ce soir sur le pouvoir d'achat qui, en banlieue comme ailleurs, reste une préoccupation majeure. Mais l'Élysée est moins sûr d'une intervention présidentielle sur le sujet. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, lui, n'attend pas et annonce déjà ses propositions. Dans cette édition encore, les étudiants, séduits par Valérie Pécresse. Et puis à l'étranger, George Bush qui ne doute de rien. Il demande aux Israéliens et aux Palestiniens de parvenir à un accord de paix à la fin 2008. Enfin, les capitaux saoudiens au secours de la plus grande banque du monde, elle est américaine. La compassion envers les victimes, les familles des deux adolescents qui seront reçus tout à l'heure à l'Élysée, le commissaire blessé dimanche qui recevra la visite de Nicolas Sarkozy sur son lit d'hôpital. La compassion donc, et puis la fermeté à l'encontre des criminels, selon les termes de François Fillon. Les criminels qui, dit-il, ont tiré sur les policiers, 120 d'entre eux au total ont été blessés. L'exécutif monte donc en première ligne, alors que la soirée à Villiers-le-Bel, après les violences des dernières heures, a été beaucoup plus tranquille. C'est d'ailleurs un dispositif sécuritaire impressionnant qui a été déployé dans la ville. Elle a été quadrillée par quelques 1000 policiers, certains portant des fusils d'assaut à visée laser. Une ville survolée par un hélicoptère muni d'un projecteur à ce prix. La nuit a donc été plus calme, mais ce calme reste précaire. À Villiers-le-Bel hier soir, François Fillon, pour la seconde fois, s'est rendu sur place, de même que Michel Alliot-Marie. Reportage Thibaut Cavaillès.
1h15 pour François Fillon, plus de 3h pour Michel Alliot-Marie. La rencontre du chef du gouvernement et de la ministre de l'Intérieur avec les forces de l'ordre et de sécurité de Villiers-le-Bel n'a rien des visites au pas de charge habituelles des ministres. 3h, c'est long, c'est dire si la situation est prise au sérieux. Il fallait montrer le soutien de l'État aux forces du maintien de l'ordre et de la sécurité, selon François Fillon.
Les fonctionnaires de police, les pompiers, tous les personnels qui, dans des conditions très difficiles depuis 3 jours, œuvrent pour ramener la sécurité. Ils ont besoin d'être soutenus et ils doivent savoir que le gouvernement est totalement déterminé à faire en sorte que l'ordre revienne le plus rapidement possible sur ce territoire.
Il s'agissait de la deuxième visite du Premier ministre à Villiers dans la seule journée d'hier. Michel Alliot-Marie, elle, s'était rendue à Villiers lundi, au lendemain de l'accident. À chaque fois, pour l'une comme pour l'autre, rencontre avec des représentants de la ville, des forces de l'ordre, mais pas avec des jeunes, ni même des associations de quartier. Ce que regrette Natacha, commerçante à Villiers-le-Bel, rencontrée hier après-midi.
La ministre, elle est passée, elle a parlé aux journalistes, elle a parlé au maire de Villiers-le-Bel, mais elle n'a pas vraiment parlé aux jeunes. Quelles sont leurs pensées? Rien du tout, donc les jeunes ont besoin de s'exprimer en fait. S'ils ne s'expriment pas, ils vont s'exprimer par d'autres manières.
À l'issue de sa visite du PC Secours, Michel Alliot-Marie, cette nuit, a effectué une tournée dans les communes de Goussainville, Sarcelles et Villiers-le-Bel, avec des policiers en voiture banalisée.
Un reportage de Thibaut Cavaillès. Nicolas Sarkozy devrait donc reprendre la main ce jeudi avec encore une réunion sur la sécurité prévue dans la matinée à l'Élysée. Sur le plan politique, le Parti Socialiste accuse la droite de n'avoir pas tiré les leçons des émeutes de 2005 et adressé un réquisitoire accablant de l'échec de la politique de l'UMP sur les banlieues. Le Parti Socialiste qui appelle notamment au retour de la police de proximité. Vive passe d'armes hier à l'Assemblée entre la ministre de l'Intérieur et l'opposition. Les députés UMP, eux, étaient plus mesurés. À l'image de Pierre Cardot qui estime que la paix sociale ne s'obtient pas en roulant des mécaniques et que si l'on a besoin de fermeté, le tact est aussi essentiel. Pierre Cardot, le député maire de Chanteloup-les-Vignes, avec Christine Moncla, il fait part de ses inquiétudes.
Le fait que les armes circulent, on le sait depuis un moment, il y a des trafics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça. Simplement, ça s'est densifié manifestement, et surtout, il y a beaucoup moins de résistance au fait de les utiliser. Ça, c'est préoccupant. Ça veut dire que vraiment, pour beaucoup, ils ont passé un seuil. On a un noyau dur qui ne revendique plus de rentrer dans notre société, il la combat par moment, tout simplement. Donc, cette priorité qu'on doit mettre dans la reconquête de l'espace public, parce que c'est le seul endroit où on peut rétablir du dialogue, et au plus haut niveau de l'État, je pense qu'il y a aussi un discours à tenir, je crois que ça m'a l'air d'en prendre.